et bienvenue à la cinquième saison d'Électron Libre. On pensait jamais se rendre aussi loin.
Ah, bienvenue à tous. Ben oui, on est encore là. À la demande générale, il y a eu des manifestations, des sondages, beaucoup de choses qui ont fait qui ont demandé notre grand retour. Bon, on a demandé un cachet faramineux pour faire cette émission. Toujours cette semaine, comme à toutes les semaines, on va vous parler d'absolument n'importe quoi, de des sujets un peu hétéroclites. Avec moi, comme toujours, mes acolytes, Francis Côté, qui nous parlera de douleur aujourd'hui.
Bonjour.
Et Mélanie Saint-Germain, qui nous parlera des bienfaits de la consommation de l'art.
Oui, allô?
Moi, de mon côté, je vous parlerai de permaculture, sans oublier mon magnifique top 10, comme à chaque semaine. Mais avant tout ça, on va commencer par un petit coup de cœur ou un coup de boule, quelque chose qu'on a aimé ou détesté dans la dernière semaine. Mélanie, je vais commencer par toi.
Moi, en fait, je donne des cours de dessin à des adultes.
Okay?
Oui, je donne des cours de dessin. Donc, j'ai quatre de mes filles qui ont réalisé une exposition, leur première exposition pour certaines. Geneviève Gay, Caroline André, Julie Michaud, Marie-Pierre Maltebérère, ben, je leur donne mon coup de cœur parce que ça prend des couilles pour faire une exposition, se mettre à nu avec ses œuvres d'art. Ils l'ont fait. C'était un cours de dessin qui était sur 2 mois et ils ont réalisé des super belles œuvres. Je suis fière de vous autres.
Oh, bravo, bravo.
Excellent.
Puis je vais donner mon coup de cœur à Bruce Springsteen, qui a sorti son je ne sais plus combien-tième album cet été, Western Star. Et je l'aime d'amour, donc même si c'était mauvais, je vous dirais que c'est extraordinaire, mais en fait, c'est extraordinaire. Francis?
Tout aussi de l'amour que toi, mon coup de cœur ira à Alexandre Boudreau, un jeune homme qui fait beaucoup d'ateliers d'improvisation au primaire, Sacré-Cœur, Notre-Dame-des-Anges, à Deschutes, à Jean Dolbeau. Ouais. C'est vraiment une personne qui, présentement, avec l'absence du Juvénat, qui avait quand même un mandat de ce côté-là, assure une relève en improvisation. Donc, bravo, Alexandre.
Cette semaine, on a aimé les choses. Hein?
Voilà, oui, on commence cette saison positivement.
Avec l'amour.
Oui. Ah oui, positivement. Et pour continuer dans ce fleuve d'amour, on va débuter avec Francis qui va nous parler de douleur.
Ben oui, ça reste dans le thème. Hein?
Ben oui, c'est tellement.
Donc, j'ai reçu des dizaines de lettres de clubs sadomasochistes qui tenaient absolument à ce qu'à un moment donné, on aborde le sujet de la douleur. Donc, j'ai poussé mes recherches au plus fin fond de la douleur et finalement me rendre compte que c'est quelque chose qui est assez subjectif. L'interprétation qu'on fait de la douleur quand quelqu'un nous parle de ses douleurs personnelles ou qu'on essaie d'avoir une empathie envers la douleur, mais c'est très relatif parce que ça va selon notre propre seuil de douleur. Donc, ma recherche m'a amené à savoir que la définition officielle, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en termes d'une telle lésion. Donc, je trouvais ça un peu vague comme description,
ambigu,
là, malgré
ouais.
les mots compliqués, ça ne disait pas grand-chose. En poussant un petit peu plus loin, j'ai voulu aller voir qu'est-ce qu'on avait comme type de douleur. Il y en a trois grands types de douleurs. La première étant la douleur nociception, la douleur neurogène et la douleur psychogène. Nociceptive, c'est donc le récepteur qui se rend compte de quelque chose. Admettons, tu te brûles, tu te coupes, automatiquement, cette zone de ton corps-là te dit il y a de quoi qui marche pas.
Okay,
réagis, fais quelque chose, enlève ta main ou je sais pas, j'allais faire une blague plate, mais je la ferai pas. Admettons que tu as la douleur neurogène. Donc, c'est une décharge électrique. C'est vraiment sur le fil conducteur, sur le nerf, les élancements, des sensations de brûlure, sensations de froid douloureux, picotement sur le nerf qui est atteint. C'est aussi la douleur que ressentent les amputés quand ils ont une douleur fantôme.
OK.
Donc, le fil conducteur, admettons, est coupé à un endroit, ressent quand même de la douleur. J'ai ce type de douleur-là personnellement. J'ai la névralgie du trijumeau. C'est quoi ça?
Ouais, c'est
que,
quoi ça?
Ouais, le trijumeau, c'est le nerf qui part d'ici et va jusqu'au cerveau. Moi, j'ai une artère qui, on ne sait pas pourquoi, s'est enroulée sur mon nerf. Donc, à chaque battement de cœur, il gosse mon nerf. Mon nerf se fait toujours dire... ouais, c'est ça. Finalement, il y a une médication qui est à prendre. Finalement, je prends genre d'antidépresseur. Je ne sais pas trop. Ils se sont rendus compte que ça pouvait justement dire au nerf, calme-toi. la douleur n'est pas si forte que ça. Okay.
C'est le fun qui t'ont fait accroire ça pour guérir ta dépression.
Ouais.
Ben, je vais beaucoup mieux d'ailleurs depuis ce temps-là. Mais écoute, ça fait longtemps et ça, normalement, c'est des affaires de vieux. Mais écoute, j'ai commencé ça il y a 10 ans.
On va se le dire. Hein?
On n'est pas jeune.
Non,
c'est ça. Et quand on parle de douleur, je parlais des trois secteurs rendus au cerveau. C'est la douleur psychogène générée par le psychisme, mais ce n'est pas imaginaire. Elle est réellement ressentie par l'individu en l'absence de lésion. Donc, la douleur psychotique, la douleur qu'on ressent avec
une peine d'amour,
dépression, c'est une réelle douleur.
Ouais.
Mais elle est liée avec la zone du cerveau. Voilà. Il y a des moyens techniques qui ont été développés pour... c'est quand même assez récent. Ça date de 2014 avec le déploiement de la pupille. Quand il y a une réaction de douleur, la pupille se dilate jusqu'à un certain point. Donc, depuis 2014, ils font des recherches pour être capables de déterminer le seuil de douleur. Parce que quand tu vas à l'hôpital et qu'on te demande d'imager ta douleur, tu as un graphique de 1 à 10 qui part de du chatouillement, un certain inconfort, à une douleur extrême. Mais ça reste subjectif.
Mm-hmm. Oui. T'sais, parce qu'on n'a pas la même tolérance.
On n'a pas la même tolérance. Et dans certaines circonstances, par exemple, il avait fait un parallèle entre les soldats blessés au combat et quelqu'un en bonne santé à la maison qui, admettons, tous les deux ont un cancer, une douleur à la jambe. Celui qui est retiré du champ de la zone de combat avec une blessure qui est hospitalisée, lui va composer beaucoup mieux avec la douleur que la personne qui est dans une zone de confort, mais que dû à un mal, tombe dans une zone d'inconfort. Okay. Donc voilà, la pupille peut être un moyen pour évaluer la douleur et trouver quelque chose d'un petit peu plus objectif. Et finalement, la douleur aiguë est une douleur vive, immédiate et généralement brève. Elle est causée par une stimulation nociceptive, ce que je vous disais tantôt, de l'organisme. Donc, quand tu as une douleur qui est vive, hyper intense, normalement, ça va être sur une courte échelle de temps. Par contre, il y a des douleurs chroniques qu'on appelle, qui sont les douleurs long terme. Et ça, des personnes qui ont des migraines, des personnes qui ont des maladies, les douleurs associées au cancer sont vraiment, par rapport au traitement ou à la maladie elle-même, des douleurs chroniques extrêmement difficiles. Ils disent même que les douleurs pour les enfants sont mal évaluées et mal jugées. On interprète comme étant un inconfort pour un enfant, ce qui, pour certaines situations, est une vraie douleur. Et la recherche est mal documentée de ce côté-là. Bref, il y a des moyens de combattre la douleur, mais dites-vous que c'est beaucoup à partir de ce qu'on a, ce qu'on est comme être humain qui a un seuil de douleur X, Y, Z, ou la situation dans laquelle la situation arrive, mais que tranquillement, la douleur va être aussi bien diagnostiquée et analysée que bien des maladies, parce que nécessairement, c'est quelque chose que personne ne souhaite.
Non.
Voilà.
Sauf
les sadomasochistes qui m'ont écrit en grand nombre. Je tiens à vous remercier d'ailleurs pour vos nombreuses lettres, particulièrement Tommy à Matagami.
Merci Francis, c'était très agréable d'entendre parler de la douleur. de mon côté, je vais vous parler de permaculture. Parce que moi, j'ai un grand terrain. Puis là, à un moment donné, je me disais, le tondre le gazon, ça sert à quoi? T'sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça pour rendre ça proactif, pour devenir, pour changer notre mode de vie? Et on a décidé de se plonger vers la permaculture. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un petit livre ici là, qui est chez Éco-Société, là, qui fait un petit... Bien, il y en a plein, des livres, là, mais qui fait un petit... qui peut vous aider à débuter. Premièrement, le constat, c'est que l'agriculture, comme on la connaît, l'agriculture intensive, elle est, un, non durable, hein, parce qu'on épuise les sols, et totalement inefficace. On a démontré avec la permaculture que sur un terrain 10 fois moins grand, on est capable d'être autant productif. Donc, déjà... En plus, l'agriculture intensive utilise beaucoup de ressources, d'énergie. Hein, donc, on utilise plus de ressources et d'énergie qu'on en produit. Surface agricole, de l'eau, du pétrole, c'est 10 % de la production des gaz à effet de serre juste ici au Canada. Donc, il faut y penser. Donc, c'est quoi la permaculture? Je le sais, dans vos yeux, vous me dites « permaculture », mais qu'est-ce que c'est? C'est une conception d'agriculture qui dit qu'il faut s'inspirer de la nature. C'est comme une philosophie, hein? Où on va regarder, on va concevoir notre terrain pour favoriser la diversité, le lien entre les différents systèmes et l'abondance en vue de l'autosuffisance. Donc, on veut que tout serve à quelque chose. Dans une forêt, là, tout, tout pousse, tout est en harmonie, puis personne ne se pose des questions. Il ça n'existe pas la monoculture.
Tout se régénère aussi, mais oui, c'est ça.
Ça n'existe pas la monoculture dans la nature. Donc, c'est d'arriver à créer ça à l'intérieur de la surface de ton terrain. C'est ça. L'idée aussi, c'est de mettre un effort minimum pour un rendement maximum. Donc, on laisse aller la nature. On réfléchit au départ, ça demande quand même pas mal d'énergie, mais on réfléchit et après ça, on laisse aller les choses. C'est quoi les avantages de faire ça? Dans la permaculture, tous les participants à la permaculture sont comblés, autant les animaux, les plantes, les humains, parce que le déchet de l'un va devenir productif pour un autre. Hein? La terre devient plus riche, plus féconde, année après année, donc ça s'enrichit. La production est diversifiée, abondante, constante, donc on n'arrête pas. On plante beaucoup, entre autres, de vivaces pour que ça revienne arbre à noix, arbre à fruits, donc pour que ça revienne d'année en année sans qu'on ait besoin de faire grand-chose. C'est un système qui est économiquement viable, environnementalement durable et socialement équitable. Et en plus, c'est indépendant de fertilisants, de pesticides, donc c'est hyper naturel. Le contrôle des parasites, des ravageurs nuisibles, ça se fait naturellement. Par exemple, tu dis, j'ai plein de bébites sur mes tomates. Bien, si tu mets du basilic en dessous de tes tomates, bien, ça l'éloigne, les bébites à tomates. Et bon, tu fais pousser du basilic en même temps des tomates. Donc, il y a plein d'amalgames qu'on peut faire comme ça. C'est pratiquement une dépendance nulle au pétrole, donc on n'a pas besoin pour la permaculture. On peut aussi raviver des semences rares ou perdues, hein, parce qu'on peut stocker nos semences, on peut récupérer nos graines. Par un minimum d'effort, on peut replanter. Là, nous, à partir d'une fraise et d'une pince à cils, on a recréé une vingtaine de plants de fraises. Là. Je veux dire, tout se fait naturellement. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. La production est abondante et disponible sur une petite parcelle de terrain parce que tout va se mélanger. Donc, on ne dépend pas non plus d'un seul produit. Fait que des fois, il y a une mauvaise année pour les cocons, mais c'est pas grave, tu as d'autres choses. Ça permet d'être là. Pas besoin de subvention, on peut faire ça chez vous bien naturellement, avoir quand même beaucoup. Et un faible coût au niveau du transport, parce qu'on essaie vraiment d'aller chercher des semences qui ont un lien avec le territoire. Si j'ai acheté des arbres à fruits, mais qui viennent d'Albanel, qui viennent de Saint-Gédéon, donc qui viennent du coin, qui sont déjà habitués au système. Il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est-tu viable au Québec? On n'a pas tant d'agriculture que ça. Je vais visiter un formateur en éco-habitation qui disait, la permaculture est absolument viable au Québec. Nous habitons dans le climat le plus résilient sur la planète. La permaculture est un système de design basé sur l'observation de la nature. Peu importe notre emplacement sur la planète, on peut toujours observer la nature. On peut observer la nature et se baser sur elle pour trouver des solutions plus viables et durables pour notre situation. Donc, l'idée, c'est d'arriver à un équilibre naturel là-dedans, sur notre territoire. Tout ça, là, ça fonctionne en harmonie. Par exemple, les racines qui vont être là, qui vont être profondes, vont dégager des éléments très riches et vont redistribuer ces fertilisants-là naturels aux plantes qui en ont besoin, qui ont des racines moins profondes. Si vous avez des animaux, les laissant en liberté, les poules, les cochons, les peu importe, les canards, ça fertilise naturellement ton terrain, donc sans avoir besoin d'absolument rien. Et en plus, par exemple, les canards vont manger des limaces, vont manger des bibites qui peuvent être nocives en fait pour ton agriculture. On peut mettre des pierres parce que ça emmagasine la chaleur, donc ça aide la terre à être plus chaude. Donc, tout est dans la récupération naturelle. 7 points clés pour réussir un potager en permaculture. Premièrement, tu observes. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai chez nous? Qu'est-ce qui fonctionne? J'ai-tu beaucoup de vent? Où est le soleil? Qu'est-ce qui pousse déjà? Y a-tu déjà des plantes qui poussent? Quel type d'animaux? Y a-tu des insectes? Moi, je ne vois jamais d'abeilles, puis je prends plein de légumes qui ont besoin d'être fertilisés par des abeilles. Ça se peut que ça ne marche pas. Donc, j'aime chercher une ruche ou quelque chose comme ça. L'orientation, l'exposition au soleil, quelle terre est plus humide et plus sèche, parce que ce pas toutes les plantes qui ont besoin de la même chose. Et c'est quoi mes ressources? Combien je prends à mettre d'argent? Qu'est-ce que je peux récupérer? On peut faire plein de choses. Après ça, tu sélectionnes tes légumes, tes végétaux. Qu'est-ce que je veux avoir? Des fruits, des noix, qu'est-ce qui va bien se mixer, se mélanger et à quoi ça peut servir? Par exemple, on plantait plein de fleurs, de plantes qui, et j'ai acheté un petit déshydrateur, et avec ça, ça me permet de créer toutes mes tisanes. Donc, j'ai plus besoin d'acheter de tisane, je récupère les feuilles de menthe, parce qu'en plus, ça s'étend comme chien. Il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Et aussi connaître nos mauvaises herbes, je mets une grosse parenthèse, parce que la plupart des mauvaises herbes ne sont pas mauvaises.
Il
faut les garder, parce que soit ça attire les abeilles, soit ça aide à la pollinisation, soit il y a plein de choses à lesquelles ça peut servir. Le pissenlit est un bon exemple. Et je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec tous ces herbes-là que vous détestez un peu plus loin. L'idée aussi, c'est de décider ton projet. T'sais, prendre une feuille et dire comment moi je vois ça. Parce que des fois, on va planter des arbres, on va créer des semences, mais il faut voir à long terme. Hein, parce que ça va revenir d'année après année. Donc, tu sais, c'est comme quand tu plantes un plant de rhubarbe, tu ne le mets pas n'importe où.
Non.
Parce que tu sais qu'année après année, il va être là, puis il va peut-être grandir, les framboisiers, etc. Donc, ça, c'est important de voir ça. Ensuite, on va créer des parcelles, des buts de permaculture. Ça, c'est assez simple. Hein? Tu peux mettre des vieux sacs à terre, tu mets du bois, tu rajoutes de la terre, du compost, du paillis, peu importe. Et là, tu crées des buts. Donc, il n'y a aucune mauvaise herbe qui va prendre à travers tes cultures. Et tout va pousser. À ce niveau-là. On va aussi, faut qu'il y ait quand même assez de terre, donc il faut connaître les plantes, savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. On va mettre en hauteur, au-dessus de la butte, les plantes qui vont pousser plus haut, puis autour, plein de plantes qui vont être complémentaires. On peut même y aller en hauteur en mettant des treillis, peu importe, pour faire monter des plantes au-dessus qui vont créer de l'ombrage à des plantes qui en ont peut-être moins besoin. Donc, c'est assez simple. Alors, on n'a pas besoin de racler la terre, on rajoute soit du compost, c'est relativement simple. Et l'idée, c'est de ne pas laisser son sol nu. Donc, tu as de la terre, tu as planté, tu tonds le gazon, tu arranges les affaires, tu mets ça par-dessus, ça protège tes plantes, ça les protège des insectes nuisibles, ça les protège des mauvaises herbes, donc des plantes qu'on ne voudrait pas avoir à l'intérieur. Donc, ça nous permet, en couvrant notre sol, aussi de garder l'humidité. Ça veut dire qu'en couvrant bien ton sol, tu peux économiser 3 arrosages sur 4. C'est beaucoup, là.
Oui,
donc,
bon,
tu économises beaucoup l'eau. Et là, il faut penser à l'interaction. Donc, je vous en parlais plus tôt. Hein, comment faire interagir les plantes? Qu'est-ce qui va être complémentaire? Il y a des choses qu'il ne faut pas mettre ensemble. Pourquoi? C'est assez bien documenté. Là, si vous allez sur Internet, vous allez voir. Puis, il y a des choses qui s'aident entre elles. Ça, c'est bien positif. Par exemple, avoir... Des fois, quand tu plantes un arbre, tu as besoin de 2 arbres parce que la pollinisation croisée va être beaucoup plus efficace. Des choses comme ça. Apprendre à recycler l'eau aussi. Tu te mets un gros baril, tu recycles ton eau de pluie. Oui. Ça met de l'eau à la température ambiante, ce qui est meilleur que de l'eau froide ou de l'eau poutchée avec
un boyau.
Une hose. Belle hose. Et on sait, là, on va être obligé de faire notre compost. Hein? Mm-hmm. Donc, on garde à la place de le donner là, à qui mieux, puis après ça, aller s'acheter des... On garde son compost et on l'utilise.
Ben oui.
C'est tellement simple, en plus, faire du compost. Fait qu'on peut, l'hiver, hein, vous pouvez garder ça dans des sacs de papier. T'as, je pense, 20 sacs pour 2$ au Canadian Tire. Tu mets ça dans des sacs de papier. Après ça, tu le remets le printemps dans ton compost. Puis tu gardes tes sacs pour mettre dans le fond de tes vitres de permaculture. Donc,
tout sert à quelque chose.
C'est ça l'idée. Donc, on peut vraiment, mais il faut s'informer. Puis aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, c'est relativement facile d'avoir
c'est
de
vrai.
Bonnes informations là-dessus. Donc, je vous dis, essayez ça, la permaculture. Votre jardin ne s'en portera que mieux.
Mmh.
Hein? C'était ça que j'avais à dire.
C'était du beau ça.
C'est beau ça.
Oui, on est de bonne humeur. Hein? On décolle ça avec plein de chroniques agréables comme la douleur. Mélanie, toi maintenant, on reste dans le positif. Tu vas nous parler des bienfaits de la consommation de l'art.
Oui, en fait.
De l'or, pas du lard salé. Là.
Non, pas du lard salé. Non, je ne produis pas de lard. En fait, l'art, souvent on entend ah, ça sert à rien, l'art. Moi, je justifie mon travail ici. Est-ce que vous pensez ça que l'art, ça sert à rien?
Pas du tout,
non, au contraire.
Bien, c'est
tout.
Ça, vous êtes des consommateurs d'art. En fait, l'art, ça fait du bien. Puis là, ça a été prouvé, en fait, scientifiquement. C'est le Musée des Beaux-Arts de Montréal qui a sorti un article là-dessus. C'est Jean-Pierre Changeux, qui est neurobiologiste et professeur au Collège de France, qui a sorti, en fait, quelque chose de plus scientifique, à savoir qu'est-ce que ça fait quand on consomme de l'art. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant de on connaît l'art-thérapie, hein, bon, l'art-thérapie qui est de plus en plus présent dans bien des soins par rapport à la dépression, par rapport aux enfants, par rapport, que ce soit par la photo, le dessin... toutes les formes d'art, en fait, ils disent qu'en gros, souvent, les gens qui se mettent à faire de l'art-thérapie vont avoir les symptômes dépressifs qui descendent très rapidement. Les gens deviennent plus concentrés ou centrés sur leurs problèmes, plus d'introspection. Bref, ça fait du bien, l'art-thérapie, et ça a été prouvé. Mais plus que ça, Jean-Pierre Changeux, il dit que c'est, dans le fond, c'est le premier à avoir décrypté les mécanismes neuronaux dans l'application de la beauté sur notre cerveau, qu'est-ce que ça génère. Et lui, il dit, au départ, quand on regarde une œuvre d'art, on la regarde un peu comme n'importe quel objet. C'est une œuvre. Puis ça, c'est important aussi de prendre le temps de regarder. On ne fait plus assez, on va se le dire. Fait que juste ça, en partant, ça fait du bien. Lâcher les ordinateurs et regarder. Donc, il dit que la première fois qu'on voit une œuvre d'art, on la regarde comme si c'était n'importe quel objet. Sauf qu'à ce moment-là, souvent, les œuvres d'art, on parle plus en art visuel, vont refléter une lumière. Hein, parce qu'on sait que les peintres ou les artistes, même numériques, utilisent beaucoup l'effet de lumière et de contraste. Ce que ça génère à ce moment-là dans le cerveau, c'est que le beau engendre quelque chose d'assez unique, constate Jean-Pierre Changeux. Il y a la transformation par la rétine de l'œil des radiations lumineuses en signaux électriques qui se propagent dans notre cerveau du cortex visuel au cortex préfrontal et il déclenche une inondation de dopamine.
OK, okay. Du bonheur.
La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Mmh. Voilà. Donc, les circuits des émotions vont s'activer à ce moment-là et la contemplation de l'œuvre va vraiment fonctionner comme une espèce de récompense. On fait plaisir à notre cerveau. Cette lumière-là entre par notre rétine et nous génère du plaisir. Donc, lui, il dit que le beau est essentiel à l'être humain parce qu'il nous fait du bien. Mais plus que ça, les œuvres d'art, encore là, bon, il dit que ça réveille notre empathie. Et ça, ce bout-là, je vais vous le lire un peu plus parce que j'ai eu une révélation d'amour en lisant ça, pour vrai. Bon, Platon disait « le premier bien est la santé, le deuxième est la beauté ». Donc, les études en neurosciences de ces dernières années de Jean-Pierre Changeux, en fait, ont confirmé les intuitions de philosophie de l'Antiquité. Regarder une œuvre d'art, faire de la musique, a des effets directs sur notre cerveau. En fait, tout se passe comme si l'art caressait notre cerveau.
Okay. C'est beau, hein? Ah, oui.
Donc, au moment où on regarde, il explique que la contemplation d'une œuvre d'art sollicite le cortex frontal, qui est le siège de la raison. Puis lorsqu'on cherche à comprendre une installation, qu'est-ce qu'il voulait dire dans son œuvre, on stimule notre cerveau, on cherche à réfléchir là, parce qu'on ne fait pas juste regarder, il faut la réfléchir, cette œuvre-là. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que si on aime cette œuvre-là, le cerveau augmente la luminosité, les contrastes, les couleurs pour en profiter de plus en plus. Les yeux, la pupille s'agrandit.
Comme pour la douleur.
Comme pour la douleur, voilà. Exactement. Et très vite, on réveille nos neurones miroirs, qui sont les neurones de l'empathie, en fait. Puis ça, ce que ça fait, c'est que, là, j'utilise le mot gyrus fusiforme, qui est à dire, en fait, c'est la zone du cerveau qui fait qu'on reconnaît des visages. Donc, cette partie de notre cerveau-là aussi, elle devient éveillée. Et voir un beau tableau, ça serait comme de voir une personne qu'on aime pour notre cerveau.
C'est bien beau.
Fait qu'on développe, c'est pour ça qu'on a souvent des coups de cœur pour des œuvres d'art ou tout ça. Donc, tout ça, ça va se ressentir, en fait, sur notre santé mentale. Et ils disent qu'en fait, plus, si mettons une personne consomme à peu près de l'art une fois par mois, tu as 32% moins de chances de faire une dépression. Et plus tu consommes, à plus de 2 à 3 fois par mois, on monte à 48 % parce que ça génère vraiment des grosses doses de dopamine au niveau du cerveau et du bonheur. Je vais fermer là-dessus en vous disant que aller au cinéma, aller voir consommer de l'art, c'est pas vrai qu'en région, on n'a pas une culture épanouie, ouais. C'est faux. On a des expositions, on a des centres d'artistes, on a des pièces de théâtre. Sinon, aller dans les musées, consommer de l'art, mon Dieu, c'est bon pour la santé.
Oui, puis on a démontré que l'art, le milieu des arts aussi, est beaucoup générateur, un bon générateur économique aussi.
Oui, exactement.
Il y en a qui vont dire, ah, l'art, on va mettre de l'argent là-dedans.
Mais tu sais, les théâtres d'été, là, ça se passe, allez-y, mon Dieu, avec les enfants. Puis faites-en consommer très tôt à vos enfants. Parlez d'art avec vos enfants et éduquez-les parce que même pour vous, vous allez avoir des belles leçons d'analyse d'enfants d'œuvres d'art. C'est merveilleux.
Hey, on était tellement excités de commencer qu'on a oublié quelque chose de fondamental. Hein? On a oublié de vous dire qu'on est à la microbrasserie de Coureur des
Bois. Oh mon Dieu!
Studio, on sort, hein? On fait les choses différemment. Bien sûr, on est à Jean, hein? On est à l'eau, bien oui. Sûr, mais on verra plus tard qu'est-ce qui adviendra de ce Hey, c'est l'heure de mon top 10 que
oui.
Je sais que vous appréciez
ben
énormément.
Oui.
Aujourd'hui, je vais vous faire un top 10 des choses qui sont interdites dans le monde puis qui, pour nous, paraissent peut-être un peu débiles,
okay.
Mais c'est des interdictions. Par exemple, au Burundi, c'est interdit de faire du jogging.
Ah,
hein? En fait, du jogging, de la course,
la
tout
course
ce qui pointe quand on est... Pourquoi? Parce que ça pourrait amener des gens à... Ça crée des mouvements de groupe. Hein, puis là-bas, on n'aime pas trop ce concept-là parce qu'on considère que ça pourrait devenir un soulèvement à caractère politique. Donc, on n'a pas pris de chance. T'as pas le droit de faire du jogging.
Tu cours pas.
Oh, ça va, hein?
Moi, ça ferait mon affaire.
Autre chose, à Capri, en Italie, c'est interdit de porter des souliers qui font du bruit.
J'ai déjà entendu ça,
ouais, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, pas de sandales, pas de, etc., de gougounes, parce que ça fait du bruit. Donc, venez là pour dire que vous allez à Capri.
Hein, je mettrai pas
Capri,
mes talons.
Mais mettez pas vos talons.
Pas tes talons.
Au Bhoutan, hein, un pays qu'on aime tous, c'est interdit de fumer et de vendre du tabac. On sait le Bhoutan, c'est un pays, bon, c'était le dernier pays au monde à avoir accès à la télévision en 1999, mais c'est le premier pays au monde à prohiber totalement la vente de tabac. Donc, c'est ça, si vous voulez aller au Bhoutan, hein, ben, pensez à arrêter de fumer avant. Au Malawi, ça aussi, il y a une loi hein, qui dit que c'est interdit de vicier l'atmosphère. C'est un délit. Donc, on ne peut pas péter en public.
Ah, ouais.
Ouais.
C'est un délit.
C'est un délit.
Un délit.
Délit, c'est sanctionné par la loi. On veut des noms.
Ouais, c'est ça.
Ouais. En Turquie, hein, on n'a pas interdit Pokémon Go, mais on l'a limité les heures d'utilisation. Après que les gens aient été pris en flagrant délit de chercher des Pokémon pendant messe ou des choses comme ça. Puis, ils ont passé une loi pour être certains. Ça m'a dit.
On le dira aux 7 qui jouent encore à Pokémon Go.
Ouais. Au Kenya, hein, on a interdit les sacs de plastique. Yeah!
Oui.
Ben, bonne affaire.
Ben, oui.
Ici, ça commence à se parler.
Ouais, ça commence.
Donc, c'est interdit pas seulement de les utiliser, mais de les fabriquer et de les importer.
Belle chose.
À Singapour, c'est interdit de vendre de la gomme à mancher. Déjà depuis 1992, c'est interdit de mancher de la gomme en public. Mais on pouvait en acheter. Maintenant, on ne peut même plus acheter de gomme. Et la raison, c'est que on n'aime pas ça de nettoyer les gommes qui sont par terre.
Effectivement.
Aux États-Unis, hein, à cause d'un malheureux événement qui s'est passé en 1938, où une petite fille s'était acheté un œuf Kinder Surprise et avait avalé un morceau, depuis 1938, les œufs Kinder sont interdits aux États-Unis. Mais bien sûr, on peut s'acheter des armes à feu.
Ben oui, c'est logique.
En Russie, c'est interdit de conduire une voiture sale. Hein? Donc, selon la loi, les Russes devraient effectivement se déplacer dans un véhicule propre.
Si vous faites
arrêter, vous pouvez pogner une double amende parce que si votre auto est sale, on va faire excès de vitesse, auto sale. Hey, moi, j'aurais pogné ça l'étiquette.
Oui.
Et finalement, hein, en Chine, on ne peut pas se réincarner comme on veut.
Oh non!
Non.
Depuis 2007, hein, si tu veux te réincarner, tu dois avoir l'approbation, la validation des autorités chinoises. Ah. Contrôler qui se réincarne.
Ben oui, mais il faut un certain contrôle. Hein?
C'est ça. C'est ça. On le fait pour les immigrants au Québec, ils le font pour la résurrection.
C'est ça. Ce qui met fin à notre 49e et première émission de la 5e saison de l'Électron Libre. On vous dit à la semaine prochaine, toujours en direct du Coureur des Bois. Bonne semaine! Thank you.